Patrimoine et Finances, une émission animée par Frédéric Primo, banquier du patrimoine et de l'entreprise, chef de marché profession libérale pour le groupe Société Générale.
Chers amis et chers auditeurs, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de la chronique Patrimoine et Finances. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un phénomène qui se développe de plus en plus ces dernières années et qui peut intéresser l'investisseur non professionnel. Il s'agit du co-living. C'est un concept apparu dès 2018 en France, mais qui date en réalité du début des années 2000 sur la côte ouest des États-Unis. J'ai déjà eu le plaisir de vous parler de cette tendance dans le passé, l'occasion de faire un point. Ce concept consiste à vivre à plusieurs dans un même logement avec des services mutualisés, et en ayant des espaces communs, comme la cuisine ou le salon, par exemple. Et bien sûr, des espaces privés, la chambre ou la salle d'eau. Dans les services mutualisés, on va retrouver l'assurance habitation, l'électricité, l'eau, le chauffage, Internet, qui seront les prestations basiques. Mais on peut aussi retrouver des résidences de co-living qui vont proposer des petits ou des grands plus, comme une salle de sport, un service de pressing, du matériel de cuisine, un service de ménage, le petit déjeuner. Et c'est non limitatif. Alors, qui sont les candidats à ce type de location ? Des jeunes actifs, des étudiants aussi, mais on retrouve des salariés en mission, des expatriés, des actifs qui connaissent un changement dans leur vie ou qui réalisent par exemple des travaux dans leur résidence principale. Les futurs candidats apprécient que le préavis de départ soit réduit et pour des séjours de courte ou moyenne durée. C'est une formule flexible. Clé en main, il n'y a qu'à poser ses valises en principe. Finalement, vous direz que cela ressemble à de la colocation. Oui et non. La colocation attire des étudiants et des actifs urbains, et ces derniers sont friands de services supplémentaires, parfois à forte valeur ajoutée pour l'investisseur, et facilitant pour l'utilisateur. Et contrairement à la colocation, quand on vit en logement co-living, on n'a pas à se préoccuper de l'arrivée ou du départ d'un nouveau résident. L'intendance est externalisée. Et on constate que des résidences basées sur des thèmes précis se développent aussi en fonction de centres d'intérêt comme la cuisine, le sport ou le bien-être. Et de toute façon, il y a aussi la volonté de vivre en communauté. C'est un prérequis indispensable à mon sens. Tout le monde n'a pas envie de vivre à la Friends. Le co-living croise aussi le co-working et même le meublé touristique. Des offres se développent où souvent dans un seul et même immeuble, les espaces de vie et de travail se rencontrent. La question de fond est de savoir si les locataires s'y retrouvent dans un contexte de crise du logement dans les grandes villes françaises. D'accord, tout est compris, c'est clé en main. Il y a des services de base et un certain nombre d'options à la carte. Pour résumer, il faut compter environ 1000 euros par mois pour 10 mètres carrés à Paris. Je vous laisse juge. Et du côté des investisseurs, c'est ce qui vous intéresse, qu'en est-il ? On constate depuis 5 ans que ce type d'investissement devient surtout à la portée des fonds d'investissement. Mais rien n'interdit à un investisseur non professionnel de se lancer, bien évidemment. Néanmoins, au regard de l'investissement foncier, des travaux de rénovation et de transformation souvent significatifs, le ticket d'entrée devient de plus en plus important. D'autant que pour générer une belle rentabilité grâce à la densité de locataires, et tout est occupé, hein, tout est exploité, et tout est optimisé, les immeubles vétus sont privilégiés comme ceux que l'on transforme et dont on change la destination d'occupation. À cela, il faut créer une ambiance dans l'air du temps, ce qui signifie aussi un investissement en équipement et en décoration. Ce qui explique la présence de plus en plus importante des fonds d'investissement sur ce marché. Un simple passage chez IKEA ne sera pas suffisant pour équiper votre logement. À noter que le propriétaire investisseur du bien, qu'il soit professionnel ou non professionnel, délègue généralement l'exploitation de ses immeubles à une société spécialisée, dont le nombre s'est multiplié ces dernières années. Et dont peu sont rentables pour le moment, je le précise. Alors, si vous êtes un investisseur non professionnel, est-ce que votre banque va vous suivre ? Il sera nécessaire de trouver un équilibre entre les futurs loyers à percevoir de la société d'exploitation et votre charge de remboursement pour l'acquisition et les travaux. La variable d'ajustement sera le montant de votre apport. Évidemment, la banque prêteuse regardera, ce qui est normal, votre capacité d'endettement et votre capacité de remboursement. Mon opinion a toujours été la même. Il n'est ni aisé ni sain de créer, ou d'espérer de créer, de la valeur seulement avec de l'endettement. Il existe des alternatives à un investissement dans le dur, entre guillemets, hein, dont le ticket d'entrée est donc de plus en plus important, vous l'aurez compris. Je parle bien sûr de la pierre papier et notamment des SCPI, mais pas seulement. Cela permet de diversifier son patrimoine et les fonds dédiés au co-living existent, se développent. On ne peut pas dire non plus que ça soit une explosion, mais ils existent et c'est une possibilité d'investissement. Comme souvent, ma recommandation est de vous rapprocher d'un professionnel, comme votre conseiller en patrimoine, pour vous forger votre propre opinion. Il y a quelques instants, je parlais d'un loyer de 1000 euros par mois pour 10 mètres carrés à Paris, à titre d'exemple. Une fourchette de prix souvent constatée. Cela signifie que l'encadrement des loyers est contourné par des compléments de loyer qui se justifient, d'après les bailleurs, par des prestations supplémentaires qui sont fournies. On entend parler de plus en plus d'un prochain projet de loi à l'Assemblée nationale pour l'été, le prochain été, afin d'encadrer l'activité de co-living, jugée un peu trop cash machine, et qui favoriserait peut-être aussi l'éviction des populations les plus fragiles. Cela permettrait de donner un statut sans équivoque au co-living, sujet à suivre, les débats à l'Assemblée ne sont pas aisés depuis quelques mois. J'espère vous avoir éclairé, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Patrimoine et Finances. Je vous remercie de votre fidélité et je vous rappelle que vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux et réécouter nos différents podcasts. À très vite.
Patrimoine et Finances, une émission animée par Frédéric Primeau, banquier du patrimoine et de l'entreprise, chef de marché profession libérale pour le groupe Société Générale.